Des livres RMC, Fred Hermel.
Le 13 avril dernier, des membres de l'extrême gauche s'en prenaient au stand des éditions Fayard lors du Salon du Livre de Paris. Le 1er mai, les locaux de la maison d'édition Les Puffs, presse universitaire de France, étaient vandalisés pour avoir publié un essai sur l'obscurantisme woke. Quand on commence à attaquer ces créateurs de liberté, ces passeurs d'idées que sont les éditeurs, c'est que quelque chose de monstrueux est en train de s'approcher. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans le 20e épisode du podcast littéraire de RMC, auquel je vous invite respectueusement à vous abonner. Célèbre animatrice de radio et de télévision, elle vient de publier son premier roman, La fille au père, chez Albin Michel, et c'est déjà un énorme succès. Sidonie Bonnec est aujourd'hui mon invitée. Bonjour Sidonie.
Bonjour Fred, quel bonheur d'être là.
Ah mais c'est super, on s'était rencontrés
oui.
Lors d'un salon du livre.
Je vous ai lu, vous m'avez plu, enfin pas vous, mais votre littérature.
Voilà, vous n'étiez pas obligé.
Non, mais pour être clair,
non, mais des fois laisser un petit peu de mystère, ça fait pas de mal.
C'est un compliment de dire que.
Mais je sais, mais vous avez aimé mon roman et ça m'a.
Exactement.
Mais ce n'est pas pour cela que vous êtes là, c'est parce que vous avez écrit un livre magnifique, moi qui m'a pris. Ah, qui m'a fait peur. On a le temps d'en parler, mais voilà.
J'ai pris au col.
Ah oui, la tension est montée petit à petit. C'est merveilleux parce que ça raconte l'histoire d'Emilou qui devient fille au père en Angleterre, mais cela ne se passe pas comme prévu.
Non. Quelle est votre question? Je dois dire ce qui ne se passe pas comme prévu.
Non, c'est pour le ton, en fait, le truc. Voilà. Parce que fille au père, on dit voilà, elle apprend l'anglais, elle est contente, elle fait 9 mois, elle mange pas très bien, mais elle se fait des copines, elle a une petite aventure, mais dans le truc là, avec le fils de la famille et tout ça, mais là,
pas du tout. Et Milou, elle rêve d'apprendre l'anglais parce qu'elle veut devenir journaliste et qu'elle n'a que cette solution, en fait, finalement, d'aller à Londres et d'être dans une famille, accueillie dans une famille pour faire des ménages, des goûters sucrés pour des enfants gâtés et ainsi pouvoir, avec les quelques heures qui restent dans la journée, apprendre l'anglais. Malheureusement, elle va tomber dans une famille totalement dysfonctionnelle, une famille avec une mère au foyer désœuvrée parce qu'elle n'a rien à faire et beaucoup d'argent. Et ça, c'est terrible dans une vie. Je ne connais pas ça, mais il paraît que c'est terrible.
Oh oui, il y en a.
Voilà, il y en a. Et un père de famille plutôt séducteur, brillant, avocat. Et en fait, elle va tomber dans un piège et elle va devoir découvrir tous les secrets de cette famille qui sont terrifiants pour pouvoir espérer se libérer. Va-t-elle y arriver, ça? Il faut lire le roman.
Alors, vous ne cachez pas que ce livre se base en partie sur votre expérience personnelle. Vous avez été jeune fille au père. Alors, quelle est la part de vrai et tout ça? Qu'est-ce qui vous influence?
J'étais fille au père. Moi, j'avais 22 ans. Mon héroïne en a 18, Emilou. Pour la même raison, je voulais passer des concours de journalisme. Il me manquait l'anglais à mon arc. Et donc, je suis partie dans une famille recommandée par l'ami d'une amie. Et j'arrive en fait dans un domaine comme Hindon Grove que je décris, même si j'ai inventé le nom du domaine, au nord de Londres. Et c'est très fermé, les maisons se ressemblent, les voitures se ressemblent, les gens sont très riches, sont très bien coiffés, parlent tellement bien et ils en jettent en fait. Et donc moi je suis comme une jeune, 22 ans, on n'est même pas encore vraiment une adulte, j'étudie encore et j'avais tout à réaliser et donc je me suis dit, c'est des gens géniaux, j'aurais peut-être même envie de devenir eux, ça va me motiver, je vais pouvoir apprendre l'anglais dans des bonnes conditions. Et de la même manière qu'Emilou, je suis tombée chez des fous. Et c'était, là en l'occurrence, c'était le père de famille qui était une saloperie, on peut le dire. Et il avait décidé de faire de moi sa maîtresse. Évidemment, ce n'était pas mon projet. Donc, j'ai eu quelques jours pour trouver un mensonge, parce qu'à l'époque, on n'a pas de téléphone portable, on n'a rien. Je suis isolée, je suis enfermée dans cette maison. Je ne peux parler avec aucune fille au père, parce qu'elles sortent jamais et elles parlent toutes un anglais très, très précaire comme moi. Et j'arrive à mentir et à leur faire croire, en fait, que j'ai été acceptée dans une école de journalisme, une école publique, et qu'il faut vraiment qu'ils me libèrent, pensais-je dans ma tête, mais qu'ils me ramènent chez moi. Et donc, le père de famille était coincé, puisque j'en ai parlé lors du dîner devant tout le monde, devant sa famille, devant sa femme, ses enfants. Et il m'a raccompagnée à la gare et j'ai pu rentrer. Quel soulagement! Mais depuis 25 ans, j'ai cette oppression en tête, cette peur de cet homme, parce que pendant les quelques jours où j'ai essayé de fuir, je mettais des livres, je coinçais des livres derrière ma porte pour pas qu'il rentre dans ma chambre. J'avais très peur, en fait. Et donc, cette déception de l'être humain, de certains hommes, cette déception de l'adolescente qui ne peut pas réaliser son rêve tout de suite, alors qu'elle est courageuse, comme beaucoup d'autres femmes, elle a été très violente. Et donc, c'est resté en moi pendant 25 ans. Et 25 ans après, j'ai quand même eu pas le courage, mais j'ai eu un déclic et je me suis dit, tiens, viens, comme si je parlais un peu à la petite fille que j'étais, enfin la jeune femme. Et je lui ai dit, viens, on va raconter cette histoire, mais on va se faire les méchants et on va inventer une bonne fiction autour. Voilà.
Et elle est très bonne, la fiction, elle fait très très peur. Alors votre roman connaît un grand succès. Vous faites des salons, vous faites des signatures dans les librairies. Est-ce que vous avez eu des témoignages de gens qui sont venus vous voir en vous disant ah bah, moi aussi j'ai vécu un truc bizarre quand j'étais jeune fille au père?
Alors je dois être franche, il y a plus de bonnes expériences que de mauvaises. Donc ça me rassure, ça me réconcilie avec l'être humain. Oui. Mais bon, c'est bien. Donc j'ai même une vieille dame incroyable, une femme très élégante qui me dit « Oh mais moi j'ai adoré mon expérience, on faisait dans ma famille des petits badges pour les Beatles. » Donc elle avait travaillé pour les Beatles. Oui. Extraordinaire, je dis « Ah oui, moi je faisais pas des badges pour les Beatles, hein, clairement. » Et quelques autres expériences, pas forcément en Angleterre, pas mal en Angleterre, mais d'autres femmes, jeunes femmes aussi qui ont été maltraitées. Prise pour des femmes, des jeunes filles serviles qui devaient faire le ménage, être très aimable avec le père de famille, vous voyez le genre. Mmh. Et donc, ce ne sont pas que des bonnes expériences. Mais qu'est-ce qu'on imagine finalement, maintenant que je suis dans la peau d'une maman, quand on envoie son enfant dans une famille, dans une intimité comme ça, dans un couple ?
Loin en plus.
Loin, en fait. C'est...
Oui, parce que c'est d'étranger.
Moi, je trouve que je ne suis pas quelqu'un de paranoïaque. Je trouve ça assez risqué et dangereux.
Alors, parlons concrètement des Milou. Elle ressent ce besoin de partir parce qu'elle s'ennuie dans son village, dans son bourg de Bretagne.
Oui, alors ça, moi, je m'ennuyais pas vraiment, mais un peu quand même. Moi aussi, je rêvais de partir.
Vous venez de Reims, hein, c'est ça?
Oui, alors, je suis née à Reims, que mon père était joueur de foot, donc on a aussi habité à Reims, mais je suis bretonne d'origine.
Yannick Bonnec, hein, pour les...
Voilà, exactement.
Bah, oui, bah, les gens connaissent aussi la partie de foot, ouais, voilà.
Ouais. Et donc, et Milou, elle, bah, comme moi, comme beaucoup d'adolescents, elle a envie de quitter ce bled, parce que souvent, bah, évidemment, il y a la mer, c'est joli, il y a des embruns, mais ça, on apprécie ça quand on a 40 ans, pas quand on est jeune. Ouais. Elle a envie de vivre des aventures. Donc, elle va quitter ce bled que j'ai inventé. Hein. Plouernec n'existe pas parce que j'aime trop la Bretagne pour en dire du mal.
Donc, il ne fallait pas stigmatiser une ville concrète.
J'ai inventé une ville parce que j'aime toute la Bretagne. Et donc, elle quitte assez rapidement sa Bretagne pour se retrouver à Londres.
Alors, vous décrivez vraiment très bien ce bourg de province, en fait. Parce que moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand des Parisiens fantasment... Moi,
je viens d'un petit village du Pas-de-Calais. Je ne suis pas parisienne, ça va.
Mais c'est pour ça. Non, il y a des gens qui fantasment comme ça la province, les petits bourgs. Mais ce n'est pas ça du tout, en fait. Alors que là, ça sent le vécu. En tout cas, vous connaissez très bien ça et vous décrivez très, très bien cette atmosphère de l'ennui. Il y a, dans les premières pages du livre, le bus qu'on ne peut pas manquer parce que sinon, on reste pendant une heure à attendre le suivant.
Je l'ai vécu.
Bah oui, voilà. Donc, mais
dans
ça,
le noir,
ça parle.
Le matin.
Bah oui, parce que en plus en Bretagne, le matin il fait noir très tard.
Oui, et puis il fait froid aussi, ouais, de temps en temps, hein, quand même. Et puis j'aime bien, alors je ne vais pas me citer, mais c'est une phrase qui plaît et elle me
mais
plaît.
Mais on est là pour
aussi.
Parler de ce que vous avez écrit, voilà. Donc ça tombe bien, allez-y.
C'est le granit, ce granit rose qui fait rêver les touristes. Bah, quand on est jeune, ce granit en plus il n'est même pas net tout le temps. Et quand on n'est pas bien dans sa peau, pas bien dans sa famille, parce qu'elle n'est pas bien dans sa famille, Milou, ce sont des gens qui travaillent énormément et qui n'ont pas le luxe d'avoir du temps de s'occuper de leurs enfants, de parler avec eux, de s'occuper de leurs préoccupations. Et j'écris ici, même le rose est pourri. C'est marrant, c'est une phrase qui marche.
Exactement,
marche beaucoup,
je m'en souviens
en fait.
Très bien. Oui, tout à fait, je m'en souviens parfaitement.
Mais c'est vrai qu'une couleur joyeuse et glamour peut être une saloperie quelque part.
Mmh. Tout dépend du contexte.
Tout dépend du contexte.
Alors, il y a cette volonté de départ des Milou parce que sa grande et seule amie Morgane vit un grand drame. Alors, vous dites si vous pouvez le révéler ou pas, parce que ça fait partie de... On comprend la personnalité et la détresse par moment des Milou parce qu'il arrive quelque chose de grave à Morgane.
Oui, Morgane, c'est sa meilleure amie. Et d'ailleurs, c'est la seule personne de sa famille. Elle dit même, c'est plus fort que la famille, on s'est choisi. Et ça, c'est une amitié à la vie et à la mort que moi aussi, j'ai vécue. Et j'ai d'ailleurs perdu ma meilleure amie. Ce qui m'a inspiré ce personnage de Morgane, qui va disparaître, mais qui sera là tout le long du roman.
Exactement.
Et c'est un personnage important parce qu'il ne s'agit pas de magie. Il s'agit d'un fantôme qui va la suivre et qui peut-être l'aidera.
Parce que Émilou va communiquer
pourtant,
avec ce fantôme.
C'est un récit réaliste. Hein.
Oui, mais elle va communiquer, elle lui parle.
On a tous des fantômes auxquels on parle quelque part, même si on ne s'adresse pas à eux comme ça, très précisément.
Alors, parmi tous les trucs géniaux que j'ai lus dans votre livre, j'aime votre capacité à décrire les ambiances tout au long du livre. Ça, c'est quelque chose de très très fort. C'est pour ça qu'il vous prend aux tripes. Et notamment, cette ambiance de vie de lycéenne des années 90, avec son Walkman et cette chanson.
Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars,
puisque tu pars.
le génie absolu,
Jean-Jacques Goldman.
Ah, j'ai adoré que vous citiez Jean-Jacques Goldman. Voilà. Là, on se dit, bon, on est vraiment de la même génération. Même si je suis plus vieux que vous, on est de la même génération. Voilà.
Vous êtes plus vieux que moi. Ça se voit pas.
Oh, vous vous rattrapez pour tout à l'heure.
Oui.
Non, mais Jean-Jacques Goldman dans le Walkman, c'est tellement.
C'est, voilà, la petite mousse orange là, qu'on a rigondé, qui se déplaçait, qu'il fallait remettre.
Mais c'était le bon temps, ma brave dame.
Mais oui. Hein, mais c'est vrai que c'est amusant parce qu'il y a pas mal de lectrices et de lecteurs qui ont adoré qu'on revisite les années 90. Alors moi, j'avais pas l'impression que c'était si vieux que ça. C'est vrai que c'est les années 70 de nos parents, 60-70 de nos parents finalement. Et c'est vrai que c'est une époque, c'est une autre époque. Voilà, on a des plaids un peu encrochés de toutes les couleurs. On écoute Jean-Jacques Goldman.
On a des pulls tricotés par notre grand-mère.
Voilà, on s'ennuie parce qu'on n'a pas d'écran. Ben donc on s'ennuie, donc on réfléchit. Et c'était
bien. On lit quand même.
Et on lit. Ouais, moi, je lisais énormément. Et d'ailleurs, Emilou, elle part à Londres avec quelques vêtements, mais surtout des livres.
Exactement.
Pour se tenir compagnie. Et moi, quand j'avais, il y a 25 ans, j'avais fait pareil.
Alors, si vous aimez l'ambiance 80-90, je vous recommande la nouvelle radio
musicale
de RMC, RMC Gold, et notamment une émission qui est diffusée le dimanche, qui s'appelle Paroles et Musique. Voilà.
Bien ça, vous invitez qui ?
On invite des artistes des années 80-90, mais aussi des artistes qui se sont inspirés, des artistes actuels, qui sont inspirés par cette période. Alors, il y a une rencontre aussi dans le livre avec Virginie, parce qu'elle est... Elle existe, elle a un rôle décisif, parce que c'est elle qui lui parle de l'Angleterre et du boulot de jeune fille au pair, et qui va convaincre Émilie d'accepter.
Oui, et Virginie, c'est l'amie d'une amie, donc c'est l'amie de Morgane. Et un soir particulier, je ne peux pas tout révéler parce qu'il faut vraiment découvrir.
Parce que c'est très. En fait, dans la dramaturgie, il y a beaucoup de dramaturgie dans votre livre. Donc chaque scène
compte.
Non, mais c'est vrai.
Et cette amie, en fait, dit qu'elle était à Londres. Donc Émilou, tout de suite, elle a des étoiles dans les yeux. Londres, c'est très loin, c'est excitant. Elle lui demande ce qu'elle a fait. Elle a été fille au pair. Et donc elle a envie, Émilou, d'y aller. Elle lui pose des questions, elles sont avec une autre amie qui dit non, moi à l'étranger c'est trop loin, j'irai pas. Mais Émilou, ça lui donne envie, parce qu'Émilou, elle est farouche et elle a envie de vivre sa vie au fond de toute cette misère. Mais Virginie, elle a pas très envie de lui donner le plan parce qu'elle a envie d'être la seule star de la soirée, de cette aventure. Puis finalement, elle va lui dire bon, allez, d'accord, ce sont des gens très riches, je vais voir si je peux te pistonner en quelque sorte. Et donc, ça va être la passeuse, c'est celle qui va permettre en fait à Émilou de tomber dans ce piège. Alors, est-ce qu'elle savait que c'était un piège, Virginie ? Ça, le roman le révèle aussi.
On ne dit rien. Voilà. Alors, j'aime beaucoup aussi dans votre livre le naturel, la crédibilité des dialogues. C'est pas pour dire du mal des gens, mais enfin, en tout cas, ceux qui sont pas invités. Non, mais parce qu'il y a des dialogues des fois, mais tu dis, mais c'est pas possible, alors, les gens ne parlent pas comme ça, quoi.
Alors, ça me fait plaisir, vous parlez de ça.
Oui, mais vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes une célèbre, vous faites de la télé. Bah si, c'est Denis Bonnec, on vous voit à la télé.
Quoi, je travaille.
Oui, non, mais ce que j'adore, c'est que vous avez conservé ce contact avec la lycéenne que vous y étiez. Et ça se sent très fort dans les dialogues, en fait. Ils sont naturels. Moi, je me suis reconnue dans ces dialogues de cette époque-là. En fait.
Bah, c'est touchant ce que vous me dites, parce que ma grande angoisse dans l'écriture de ce roman, donc c'est mon premier roman. J'ai déjà écrit beaucoup de nouvelles qui n'ont pas été publiées, mais c'est mon premier roman.
Et puis d'autres livres.
Oui, des documents, récits, des récits, mais c'est pas de la littérature. Et j'avais ma plus grande angoisse, je vous le dis sincèrement, c'était d'écrire des dialogues. Parce que j'adore les descriptions, j'adore l'ambiance. Je savais que j'étais capable, mais les dialogues,
c'est
ça m'horrifie.
C'est très dur à faire.
C'est très dur.
Et donc, on peut rapidement être ridicule, en fait, dans un dialogue.
Exactement. Et ça sonne faux, souvent.
Vous savez, quand dans un dialogue, quelqu'un dit « nonobstant ».
Ah non, personne ne dit ça.
Non, mais oui, des fois, j'ai lu.
Mais vous savez ce qui m'a aidé à écrire des bons dialogues ? C'est ma colère. Parce que j'ai écrit avec la colère de la jeune femme que j'ai été. Et je me suis servie de cette colère. Et c'est mon mari qui m'a beaucoup encouragée dans l'écriture de son roman, qui m'a dit mais serre-toi de tout ce qui t'anime, là, il faut tout racler. Et donc, il y a des jours, j'écrivais sous colère. Voilà. Et ça marche bien, en fait, parce que il y a votre voix qui sort.
Puis je pense et c'est, la, c'est voix de, la voix de la lycéenne que vous étiez. Donc, le langage, c'est celui d'une lycéenne de cette époque-là.
Exactement. Et puis, c'est vrai qu'en faisant beaucoup de radio et de télévision, c'est pas faire de la presse écrite. Donc, c'est parler. Moi, j'adore m'adresser aux auditeurs, aux téléspectateurs, naturellement. Et je trouve ça magnifique d'être naturel. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres. Parce que franchement, d'être aseptisé, de jouer un rôle, ça m'intéresse pas beaucoup.
Émilou est dans l'Eurostar ce lundi 26 août 1996. Elle dit sous votre plume... C'est l'occasion de me présenter différemment, d'être une autre que moi. Le départ, Sidonie Bonnec, c'est une renaissance ?
Oui, et puis j'ai expérimenté ça. Je déménageais beaucoup avec mes parents Et longtemps, j'ai été l'intello, un peu transparente. Et un jour, j'ai décidé de changer ça. Je me suis dit, oh, je vais me glisser dans une autre peau. Je vais essayer d'être une fille populaire. Franchement, c'était un jeu, hein, parce que personne, très peu de gens m'ont adressé la parole. Et je suis arrivée à Dinard, je suis allée au lycée Jacques Cartier de Saint-Malo, et je me suis dit, ah, je vais essayer d'être plus cool, j'essaie de regarder comment faisaient les filles cool, comment elles parlaient, comment elles s'habillaient. Ça passe beaucoup par les vêtements, hein. C'est dommage, mais c'est comme ça, les cheveux, vous voyez. Et je me suis mise dans cette peau-là, et tout d'un coup, je me suis fait plein d'amis. Et donc, j'ai expérimenté ce, on peut essayer de changer de peau et de c'est pas évident quand on est ado, on se pose beaucoup de questions. Et donc c'est pour ça qu'Emilou, je l'ai mise dans cette situation là parce que je me suis dit, tiens, elle imagine qu'elle peut devenir un petit peu quelqu'un d'autre, même si on est toujours soi au fond.
J'ai vécu ça en passant du collège au lycée.
Ah, c'est vrai, ouais. Vous voyez,
pour moi la plus belle année de ma vie, c'est l'année de seconde.
Ah, moi aussi,
voilà.
C'est la première année de ma vie d'ailleurs.
Ah, ouais. Ah oui, mais c'est marrant que vous disiez ça, parce que j'ai un grand ami qui s'appelle David Mila,
ouais,
qui présente Le Jour du Seigneur. Et d'ailleurs, il était venu au début de ce podcast, je crois que c'était en octobre, parce qu'il a écrit un très très beau livre sur des rencontres autour de la foi. Et il a, dans ses interviews, il a une question récurrente qui est « À quel âge êtes-vous né ?»
C'est joli, c'est une
c'est
très
beau,
belle,
hein. Et moi, on est sûrement né en seconde, en fait.
Ouais.
À l'âge de 15 ans, quoi, en fait, c'est ça ?
Enchanté.
Voilà, enchanté. Voilà, bien. Vous écrivez, c'est formidable, je me dis, je peux être n'importe qui. Et Milou ne se rend pas compte que partir, c'est aussi se mettre en danger. Elle n'est pas du tout là-dedans.
Oui, elle pense se libérer et elle va tomber dans un pire enfermement que ce qu'elle vivait en Bretagne. C'est vraiment un roman sur l'adolescence qui se fracasse sur les réalités du monde adulte. Mais il faut aussi se frotter à ce monde-là, sinon on ne grandit pas et on ne peut pas devenir une adulte forte et prudente.
C'est le moment d'un peu de lecture. Cher Sidonie Bonnec, lisez-nous la page 26 de votre roman, s'il vous plaît.
La Jaguar glisse vers le quartier chic de High Barnet, au nord de Londres. Même filtrée par les grands arbres qui longent la route, la lumière douce m'éblouit, de celle que seule la fin d'été s'est fabriquée. Je savoure le confort du siège passager. J'ai posé mes mains bien à plat sur le cuir blanc. Il est frais, rassurant. C'est nouveau pour moi. Mes paumes absorbent ce luxe. Je suis excitée. Je vais apprendre l'anglais chez des riches, puis rentrer en France, passer les concours de journalisme et quitter ma famille pour toujours. Le plan parfait. Elle est étrange, cette route qui mène chez mes patrons. Du bitume et de la forêt, pas un trottoir. Une longue voie sinueuse pour voiture. Les piétons n'existent pas, ou alors ils sont morts sur le coup. On s'enfonce. Plus on roule, plus les véhicules se font rares et luxueux. Tout est spectacle pour moi. C'est le père qui est venu me chercher à la sortie du métro. J'appréhendais beaucoup cette rencontre. Je n'avais jamais vu de riche de près, et ça me faisait peur.
J'adore cette phrase. Je n'avais jamais vu de riche de près, et ça me faisait peur. Cette phrase dit tout de la fascination d'Emilou pour ce milieu qu'elle ne connaît pas encore. Et elle croit à ce moment-là qu'elle va être acceptée facilement.
Mais oui, parce qu'en fait, on croit tous que les gens qui portent beau, qui sont bien coiffés, qui parlent bien, qui ont une belle voiture, c'est un synonyme quand on réfléchit peu, mais c'est normal. On est tous tombés dans le piège. On pense que c'est un synonyme de richesse, de bienveillance. Et bien, parfois, non. Voilà, et c'est ce qu'elle va goûter, malheureusement, tout au long de ce roman qui est vraiment... elle va en baver, hein.
Vous écrivez aussi « Elle est étrange, cette route qui mène chez mes patrons, du bitume et de la forêt, pas un trottoir. » Là, l'écrivain que vous êtes met une petite touche. C'est la première, en fait. C'est la première, elle est là depuis quelques heures, et c'est la... Oui, même... oui, elle vient d'arriver avec l'Eurostar, c'est le premier contact avec la famille. Et là, ça y est, dans la dramaturgie, ça y est, ça commence. Le thriller commence là, avec cette petite phrase, parce qu'on sent déjà une toute petite pointe d'inquiétude. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose.
Les piétons n'existent pas, ou alors ils sont morts sur le coup.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on sait qu'on entre
mais c'est
dans quelque chose d'étrange.
Mais ce lieu, il est terrible, Eden Grove. Et j'ai
alors,
vécu dedans. Oui, c'est vrai que c'est une route. On sort du métro de Londres, et en sortant du métro, on vient vous chercher. Et là, c'est une route qui s'enfonce dans la campagne, sans cesse. Et il n'y a pas de trottoir, mais dans quel univers il n'y a pas de trottoir? Mais parce que ces gens n'ont pas besoin de trottoir et donc ils vivent dans des grandes villas qui sont comme ça le long de la route. Plus, à la fin de cette villa, et à la fin de cette route, il y a ce domaine privé. Donc dans la vraie ville, ça s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle. Moi, j'ai appelé ça Hidden Grove, qui veut dire bosquet caché. Je trouvais que ça sonnait bien.
Oui, très bien.
En anglais, en tout cas. Oui, ça vous plaît. Et donc elle va entrer dans un... dans un univers effroyable, parce que déjà, alors c'est épatant pour elle, mais c'est effroyable parce que l'enceinte va s'ouvrir, elle ne fait pas de bruit déjà, c'est très étonnant, et ça c'est le luxe aussi, ça fait pas de bruit. On entre à l'intérieur, ça se ferme, on se trouve sur une place avec quelques arbres, beaucoup d'arbres, même très fins, très altiers, et puis ces maisons, comme des petits châteaux comme ça, qui se ressemblent un peu, avec plusieurs étages, et à chaque fois il y a une jaguar pour les hommes et un 4x4 pour les femmes. Alors on a compris qu'il y avait quand même que du bitume, hein, il n'y a pas besoin de 4x4 vraiment pour se balader, mais c'est le rituel. Et puis elle est accueillie par Monica, qui est cette mère de famille très belle, avec son brushing. J'en parle souvent parce que ça me fascine, même moi, dans la vraie vie. Moi, j'ai des cheveux impossibles à coiffer. Il y a des gens qui ont des brushings.
Hein.
J'ai déjà les cheveux.
C'est
de la raison.
Voilà, c'est quelqu'un qui n'a
Pardon.
Plus de cheveux.
Oh là là, la maladresse.
Ah, vraiment,
la
maladresse. Bon, alors, arrêtez là.
Non, mais vous détestez Monica alors. Elle se réveille, elle avait déjà les boucles, elle est parfaite.
Mais je l'aime. Alors, le père, vous avez raison, le James, là, il a un côté un peu coinceau.
On voit bien, quoi.
Mais on sent qu'Emilou, elle pourrait tomber un petit peu amoureuse,
oui,
mais
il est
platoniquement,
quand même.
Voilà,
oui, oui,
voilà,
bah on est,
voilà.
On est forcément un peu attiré à cet âge de l'adolescence aussi.
Alors, mais la Monica, en plus, vous écrivez souriante, mais qui ne s'intéresse pas à moi.
Ah bah oui.
Bah oui, parce que c'est pas la même classe sociale. Hein.
Bah non, elle s'intéresse à Emilou que pour lui donner des ordres. Mais
bien
c'est
sûr.
Jamais sur le ton de l'ordre. Vous donnerez le bain, Emilou, et vous ferez les goûter.
Ce sont les pires.
Il n'y a pas de question, en fait, ce sont des ordres. Et ce qui est fascinant, c'est quand elle arrive, Emilou, elle va découvrir quelque chose d'étrange. Un des deux enfants a une canne.
C'est Lewis.
C'est Lewis. C'est et on ne l'avait pas prévenu.
Et puis, on ne lui dit rien sur la maladie de l'enfant. Rien.
Ça, c'est un sacré mystère. Mais
c'est la deuxième grande.
Il y a évidemment une raison.
Touche. C'est la deuxième touche. Où là, on se dit, voilà, il y a là aussi. Ça, c'est un petit mystère, puis un mystère un petit peu moins petit.
C'est oppressant, hein, la fille au père. Hein.
J'ai ah, mais oui, mais bien sûr.
Ça
bah,
pour
oui,
vous
oui.
étouffer. Je voulais que vous ressentiez.
J'avais peur d'aller me dormir,
c'est
des
vrai.
Fois.
Ah oui, c'est vrai.
Non, pas jusque-là. Mais le petit frisson, en fait, pas pour soi, mais pour elle, à un moment, on dit, mais. Que va-t-il lui arriver? Et surtout, on a peur que la porte de la petite chambre. En plus, les maisons sont immenses, mais la fille au père, elle est dans un placard, quoi.
Ah bah oui, évidemment.
Et là, on sent
aussi
la classe sociale. Ah oui,
bien sûr.
On montre bien physiquement que vous n'êtes rien. Ça, c'est que vous êtes inférieur.
Et ça m'a marqué. C'est pour ça que j'avais envie d'écrire là-dessus. Et puis, j'avais envie aussi de. C'est vrai qu'on étouffe dans ce roman et les verrous, tout se resserre. Et, tout se resserre, oui, c'est l'expression. Et les verrous se ferment autour d'Emilou petit à petit parce que je voulais reproduire cette oppression que j'ai sentie moi. C'est-à-dire quand votre quotidien est rêvé et que tout d'un coup, vous voyez que. Tout se met un petit peu à boiter légèrement et à boiter vraiment grave après. Ça me fascine comment on peut vriller. Ça, c'est ce que j'aime chez Stephen King, par exemple, comment le quotidien peut vriller dans l'enfer. Et je trouve que ça peut tous nous arriver, de tomber sous l'emprise comme ça d'une famille, de collègues, d'un mari. Voilà.
Il y a simplement une petite trace de tendresse, c'est le petit Simon, c'est le petit frère. Emilou l'aime bien, elle est maternelle avec lui.
Elle va découvrir de l'amour aussi dans cette maison parce qu'elle a une petite sœur, mais elle ne s'entend vraiment pas bien. Et puis, elle n'a pas d'affection avec ses parents qui n'ont malheureusement pas beaucoup le temps de lui en donner. Mais elle va se raccrocher à ce petit garçon qui est joyeux, qui est plein de douceur et elle va prendre vraiment son rôle de fille au père. C'est la seule chose qui va bien se passer pour elle.
Parce que c'est la bonne. Hein.
Oui, c'est l'esclave, on peut dire même. Moi, je l'étais. Hein. Je pensais pouvoir réviser quand j'étais dans cette famille, réviser mes concours de journalisme. Je n'ai rien pu faire parce que chaque jour, je nettoyais les mêmes pièces. Donc, si vous voulez, au bout de 2 jours, je commençais déjà à nettoyer du propre. Au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, et en fait, ça devient un enfer parce que vous savez, vous pouvez pas vous sortir de là. Et puis, vous avez la mère de famille autour qui souffle, qui s'ennuie, qui a comme seule occupation d'aller mettre une tasse de thé dans le congélateur, n'importe quoi, dans la vaisselle. Peut-être qu'elle le met dans le congélateur parce qu'elle n'a pas l'habitude, mais puis elle finit par compter sur moi pour le ranger dans la vaisselle. Mais c'est une drôle d'expérience. Et en fait, cette expérience, elle m'a tellement bouleversée.
On le sent, hein.
Oui.
Ah là, vous racontez, là, je.
Non, mais ça m'a
c'est
tellement.
C'est la tendresse pour la
j'y
jeune fille
encore.
Que vous avez été.
Ouais,
oui, mais là, c'est.
Mais quand je vous parle, là, j'y suis. Ouais. Vous voyez, je revois
j'ai
encore.
J'ai comme l'impression que ce n'est pas le seul livre qui va découler cette expérience.
Il y a d'autres livres. Oui, alors, et de d'autres expériences aussi, vous allez voir. Parce que la vie d'une femme est riche, hein. Vous savez, à 48 ans, on en a vécu des choses.
Et un homme de 55 ans, je ne vous raconte pas.
Bah, j'ose pas imaginer, non, mais ça, je vous comprends. Mais c'est vrai que je me revois là-bas et ça, cette expérience a été atroce, mais elle m'a donné une ambition et une envie de réussir ma vie. Pas de réussite, ça ne veut rien dire la réussite, mais de réussir ma vie, d'être heureuse de ma vie, d'être bien dans mon boulot, dans ma famille, bien avec les gens, quel que soit le métier. Et donc ça m'a au moins permis de me construire comme ça.
Alors, Emilou, elle aime bien fouiller et elle découvre l'intimité de cette famille anglaise. Alors, il y a deux choses. Là aussi, on est dans le mystère. Le bureau du père fermé à double tour, on ne peut pas entrer. Et puis, cette Bible étrange qu'elle découvre. Mmh. Et là, on commence à comprendre des choses.
On ne dirait rien.
On ne dit rien, mais on commence à comprendre des choses. Ce sont des protestants très, très rigoristes, même un peu pas très modernes. Hein. En fait, il y a un côté du passé qui est là.
Je ne veux pas répondre à cette question.
Voilà, vous ne répondez pas.
Des choses du roman.
Vous ne répondez pas.
Oh, c'est
mais vous avez raison.
Désolée, je suis mal élevée.
Mais non. Parce que, alors, en fait, je vais vous dire, c'était très difficile pour moi de préparer cette émission.
Bah oui, sans révéler.
Voilà, parce que comment vous faire parler sans révéler
les
choses.
Je sais ce que je peux vous raconter. La religion me fascine. Moi, je suis athée. Mais je suis entourée de gens qui ont beaucoup de religions vraiment très diverses. Et je suis en total respect et empathie pour ça. Mais alors moi, c'est pas mon truc. Voilà. Et donc, je suis, en tant que romancière, si je peux me permettre de le dire maintenant, c'était fascinant pour moi de prendre une religion. J'aurais pu prendre n'importe laquelle, mais bon, voilà, c'était soit la religion anglicane, soit les protestants, mais avec mon scénario, ça marchait mieux, le protestantisme. Et j'ai choisi de travailler cette religion qui allait être complètement dévoyée. Donc, je n'attaque absolument pas les protestants dont je respecte.
Ah non.
Plus. Donc, c'est vraiment... je me suis amusée. Ça m'amusait de voir, d'explorer les dérives. Voilà, ce qu'on peut faire au nom de la religion, ça peut être vraiment absolument terrifiant.
Je vous propose une petite respiration musicale. Sidonie Bollec, comme pour chaque invité, je vous ai demandé de sélectionner une chanson. Alors, quel morceau avez-vous choisi et pourquoi ?
Vous savez que je ne sais plus ce que je vous ai dit.
Alors, Bono, ça vous dit quelque chose ?
Ah oui, You Too.
Voilà.
I still haven't found what I'm looking for.
Still haven't found what I'm looking for.
Ça aide à vivre, ça. Hein.
Alors moi, j'aime pas trop YouTube.
Ah, j'adore.
Bah, non, mais après, vous savez ce que je fais
moi,
quand
c'est le groupe de mon enfance.
Oui, mais moi, j'ai jamais accroché.
Ouais,
mais j'ai beaucoup écouté parce que quand je reçois un écrivain, il y a toujours une chanson et donc le matin de l'interview, j'écoute pour me mettre dans l'univers.
Ah,
de...
c'est
une très belle chanson.
Et vous comprenez pourquoi elle écoute ça, Emilou, dans son Walkman?
Eh oui, bien sûr. Mais j'ai envie de vous demander.
Pourquoi ?
Sidonie, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez dans la vie ?
Aujourd'hui, je peux vous dire oui.
Oui.
Parce que, comme tout le monde, j'ai toujours cherché, on tâtonne beaucoup. Et je rêvais. Je rêvais de quoi ? Quand j'étais jeune, je rêvais d'être journaliste. Et en secret, je rêvais d'être romancière.
Très réussi.
Mais c'est un secret, parce que quand vous venez de Bretagne, vous n'avez aucun réseau, que vous avez besoin de gagner votre vie, comment vous devenez romancière ? Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont ce courage de vivre dans la pauvreté et d'arriver à devenir romancier. Ou écrivain, auteur. Bon, moi, j'en avais peut-être pas le courage. J'avais besoin d'avoir un toit, d'avoir à manger. Donc, j'ai d'abord développé cette carrière de journaliste et animatrice aujourd'hui. Et ça me plaît beaucoup. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait vraiment quelque chose qui faisait que parfois, j'étouffais. Et je savais pas vraiment pourquoi. Et puis, j'ai eu cette révélation. Je me suis dit, mais il faut que t'écrives. Mais bon sang, écris, sois courageuse. Parce qu'en fait, il faut du courage.
Ouais.
Parce que quand on travaille pas mal et qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, franchement, et que personne vous attend,
dire,
vous allez vous enfermer pendant 2 ans.
Voilà, ouais,
pour écrire un roman que personne n'attend. Et puis, Je parle souvent de lui, mais il m'a beaucoup aidé. Enfin, mes parents et mon mari, il était très encourageant. Il m'a dit, non mais maintenant, tu te poses plus de questions, tu y vas, quoi. Et j'ai écrit un petit mot sur le haut de mon bureau, j'ai écrit « lâche les chiens », parce que je savais qu'il fallait, tant qu'à écrire, il faut mettre ses tripes, sortir les tripes. Et j'ai écrit, et je ne regrette pas, et depuis que ce roman est sorti, je suis d'une sérénité que je n'ai jamais connue. Parce qu'en fait, je pense que j'avais besoin de faire ça. Et que maintenant, bah voilà, toutes mes activités de mère, collègue, professionnelle, tout ça, ça s'est plus ou moins mis en place. Vous voyez, à 48 ans, c'est encore possible. On peut changer de vie ou en tout cas enrichir sa vie.
Vous n'avez pas répondu. Pourquoi vous avez choisi cette chanson alors pour tout ça?
Ah, et bah,
Milou,
oui.
Parce que c'est le rêve des Milou, voilà.
Exactement, parce qu'en fait, elle n'a pas encore trouvé ce qu'elle cherche. Et moi, cette chanson, elle m'a aidée parce que je me disais, bah oui, bah eux non plus. Peut-être le groupe U2, en tout cas, on chantait ça à tue-tête dans les stades quand on allait les voir en concert ou dans nos chambres. Et on peut ne pas avoir encore trouvé ce qu'on cherche. Mais quelque part, c'est une chanson d'espoir qui dit qu'on peut aussi y arriver. Et donc, ça me portait. Puis moi, j'aimais bien en anglais comme Emilou.
Alors, il y a quand même un moment de répit dans le roman.
C'est vous avez trouvé
l'interview de Lady Di à la BBC.
Oui.
Oui, parce que là, au moins, parce qu'elle arrive à se reconnecter à son rêve d'être journaliste.
Ah oui, c'est voilà. Vrai. C'est vrai que cette interview, en fait, Emilou, elle est toute seule dans le salon, sa famille est sortie chez des amis. Et donc, elle zappe, parce qu'elle est extrêmement fatiguée, et elle tombe sur Lady Di. Cette interview extraordinaire donnée en 95 à un journaliste de la BBC.
Alors qu'elle vient de divorcer,
et elle balance tout sur la famille royale. Et d'une manière, mais pas du tout aigrie, juste elle explique, parce que c'est une personnalité publique, donc elle a le droit à la parole publique, elle a le droit d'être critiquée en public, pourquoi elle n'aurait pas le droit de parler. Et donc, il va se passer un truc entre Emilou et elle. Et quelque part, cette interview de cette femme forte, c'est ce qui va donner de la force à Emilou, qui est seule dans sa famille. Et j'ai vraiment créé un face-à-face entre les deux, un peu heureux, un peu sensuel, un peu, parce que vraiment, cette interview, elle est dingue, vous pouvez la revoir sur YouTube. On a l'impression de sentir la douceur de ses cheveux, de ses bas, on est vraiment proche d'elle. C'était une femme, moi j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme, parce que j'ai toujours l'admiration pour les femmes qui font péter les carcans. Et je trouvais qu'elle avait vécu fort, alors qu'elle avait beaucoup souffert. Et donc j'ai créé cette scène entre les deux qui me plaît énormément. À lire dans La Fille au Père.
Mais rapidement, on retombe dans l'angoisse et ça va que monter.
Oui.
Voilà, on ne peut pas en dire plus.
Mais les vilains peuvent payer et très cher. Et ça, c'est assez jouissif pour les lectrices et les lecteurs. Il faut toujours penser à ça quand on écrit.
C'est marrant que vous me disiez, parce que je disais cela, parce que je veux terminer par la dédicace. Ce livre est dédié à Morgane. Pour Morgane, tu sais pourquoi. Au pourri, ils savent pourquoi. Puis-je vous demander qui est Morgane? On n'est pas obligé de répondre.
Ah oui, Morgane, donc, c'est l'un des personnages du roman. Et c'était ma meilleure amie. Alors, elle ne porte pas ce prénom dans la vraie vie, mais je veux la protéger. Et c'était ma meilleure amie qui avait... C'était ma sœur, voilà, on s'était choisis. Et c'était ma sœur de cœur. Et elle s'est suicidée. Elle était très malade. Et ça a été... c'est mon fantôme. Et c'est ma meilleure amie et mon fantôme. Elle est toujours là à côté de moi. Et pour moi, c'était impossible qu'elle ne soit pas dans mon roman. Et je trouve que je lui ai fait une... Je pense que je lui ai fait une belle place. Voilà.
Une belle place, un très beau roman.
Merci beaucoup.
Une histoire incroyable. Vraiment, je vous recommande à 1000%. C'est le moment du questionnaire de Fred. Des questions courtes, des réponses courtes. Où écrivez-vous?
J'écris sur mon lit, adossé à des oreillers.
Quand écrivez-vous?
J'écris n'importe quand dans la journée. Je ne me fixe pas de planning, je fais ce que je veux, quand je veux.
Avez-vous des superstitions ou des rites au moment de l'écriture?
Oui, il faut que tout soit bien rangé et que j'ai mes petits carnets à côté de moi et mon thé vert.
Écoutez-vous de la musique quand vous écrivez?
Ah, sûrement pas, je suis trop émotive. Non, je suis dans le silence.
Quel livre vous a-t-il le plus marqué enfant?
Madame Bovary, Flaubert.
Quel est le livre le plus important de votre vie?
Oh là là, bah, peut-être celui que j'ai écrit, parce que j'ai réussi à le faire enfin.
Pas mal. Êtes-vous une adepte de la lecture de plusieurs livres en même temps?
Pas du tout. Je lis un seul roman à la fois.
Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de la lecture à leur enfant?
Ah, un livre pour enfants.
Vous avez des enfants donc.
Oui, bien sûr, mais ils lisent tellement de. Ils lisent énormément. Commencez par de la bande dessinée, c'est bien. Bah, par exemple, Tintin, extraordinairement bien écrit, extraordinairement drôle.
Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un roman en entier?
Il faut s'y remettre doucement. Alors, je peux dire que La Fille au Père, ça a remis à la lecture pas mal de gens. Des gens qui m'ont dit, comme les chapitres sont courts et que c'est accessible, eh bien, voilà, c'est pas pour faire de la promo, mais voilà, je pense à ça.
Très bien.
À la fois, on parle de La Fille au Père.
Bah oui, ça tombe bien.
Une fois de plus.
Allez, passons aux recommandations. J'accueille Agnès Mathieu Daudet qui vient nous parler de son merveilleux petit éloge des cocktails qui vient de paraître aux éditions Les Pérégrines. Bonjour Agnès.
Bonjour Fred.
Alors ce n'est pas un roman, ce n'est pas un récit, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un vrai livre de recettes. C'est une déclaration d'amour au cocktail. On est d'accord ?
Oh, c'est joli comme ça. Moi je le vois toujours, je me dis c'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est pas un livre de recettes. Et en même temps j'avais envie de faire tout ça.
Donc vous êtes d'accord avec moi ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ah, ça
je vais le
bien.
Définir comme ça.
Ça démarre bien. Alors, il existe des tonnes de livres sur les cocktails. Hein. Franchement,
oui, c'était ça le problème.
Oui, voilà. Je veux dire, pourquoi un de plus ? Qu'est-ce qui vous a donné envie
pourquoi
de...
Pas. Non. Alors, j'avais proposé l'idée. J'avais un cocktail à la main et j'ai rencontré Aude Chevrillon, qui est la fondatrice des éditions Les Pérégrines et l'éditrice, et qui, je lui dis, mais moi, j'adorerais faire un petit éloge. C'est une collection qui confie à des écrivains, des personnalités, le soin de faire l'éloge de quelque chose qu'ils aiment. Et je lui dis, mais les cocktails, il y a tellement de livres déjà sur les cocktails. Elle me dit, mais non, c'est super. On veut la vie. Justement, de quelqu'un qui fait autre chose. Je ne suis pas spécialiste de cocktail. J'arrête pas depuis que le livre est sorti de remplacer. Enfin, voilà, tout le monde est spécialiste de cocktail à partir du moment où on aime un peu ça. On n'est jamais d'accord. C'est ça qui m'intéresse aussi.
On a déjà discuté.
Voilà, on n'était déjà pas d'accord dans l'ascenseur.
Et
je suis grondée. Mais voilà, et ce qui m'intéresse, moi, c'est que c'est un sujet extrêmement subjectif. Justement, je pouvais, par définition, faire ce que je voulais. C'était moi, ma vision des cocktails. Et donc, je me suis régalée. Et c'est pour ça que c'est le plus gros de la collection, d'ailleurs, je crois. Et pourtant, on a coupé beaucoup.
Alors, vous racontez une de vos premières expériences avec un cocktail. Et vous écrivez ceci, page 71. « J'en ai oublié les ingrédients, donc, mais il reste associé à un moment aussi bref que rare de félicité, probablement parce que je me sentais pour la première fois là où je voulais être, à savoir dans un monde où l'on commande des cocktails à 16 heures dans un bar d'hôtel. » Je veux vivre dans ce monde-là, moi aussi.
Moi aussi.
Oui, alors, il faut dire, j'avais 17 ans, hein, donc c'était vraiment, c'était pas le monde que je connaissais. Moi, j'ai grandi à Montpellier, où on buvait des mauresques, donc du pastis avec du sirop d'orgeat.
Ce qui est très bon aussi.
Ce qui est très bon aussi. J'ai retrouvé le goût dans ce cocktail que j'ai goûté à Prague. Donc, j'arrivais en voyage avec des amis. À l'époque, c'était 24 heures de car depuis Montpellier. Hein, on n'était pas du tout dans le monde des cocktails. Et il y avait quand même quelque chose, je pense, de l'ordre de ce qu'on a dit, de construire sa vie, de décider qu'on va vivre autre chose que ce à quoi on est prédestiné. Je commençais des études de lettres. Enfin, je n'avais pas encore commencé, c'était l'été. Je venais travailler pendant un mois dans un supermarché à la coupe à vendre de la charcuterie. Donc, autant vous dire que le bar d'hôtel me paraissait un monde à la fois très étranger et très attractif. Et j'ai entraîné mes amis là-dedans. Et je me souviens c'était un hôtel, un grand hôtel dans lequel Kafka avait lu. Je commençais des études de lettres. J'avais l'impression que je rentrais dans le monde dans lequel je voulais vivre. Et cette liberté absolue de boire un cocktail à l'heure où jusque-là, je buvais un coca et de boire quelque chose qui était associé à une idée de luxe. Ça, c'est sûr qu'il y avait aussi cette idée. La vie d'étudiant, c'est pas forcément toujours les cocktails dans les bars d'hôtel.
Alors, votre passion pour les cocktails est née à ce moment-là ?
Non, elle est bien avant. C'est ça qui m'intéresse dans ce sujet.
Dans le biberon ?
Moi, j'écris par ailleurs.
Des...
Mais oui, j'ai demandé pour mes 18 ans, j'ai demandé le Larousse des cocktails, mais parce que c'était déjà ancien. Et je pense que moi, j'écris des romans par ailleurs ou des livres pour enfants. Donc, on a l'impression qu'on est loin. Mais je pense que le cocktail convoquait pour moi tout ce qui fait l'imagination, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui évoquait des mondes exotiques, qui évoquait des personnages que je pouvais m'amuser à être le temps d'un cocktail. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque cocktail, il y a un univers qui est associé et on peut varier à l'intérieur même d'un cocktail. Et donc moi, j'étais à 13 ans, j'ai goûté un Blue Lagoon dans une fête avec des étudiants, des lycéens. C'était tout bleu avec ce curaçao dont j'ai appris depuis l'histoire extraordinaire. C'était exotique, c'était dégoûtant, j'avais mal à la tête, mais c'était... donc, il vaut mieux choisir des bons ingrédients pour ces cocktails. Mais tout de suite, c'était un monde de rêve. Voilà.
C'est fabuleux parce que je lis là la question que j'avais prévue. Ce que j'aime vraiment dans votre livre, outre le fait que c'est extrêmement bien écrit, c'est que vous racontez surtout les univers qui entourent les cocktails. Vous venez de parler d'univers.
Oui,
on est là, mais moi, c'est ce que j'aime dans votre livre.
Je pense que c'est pour ça que ce livre, au départ, moi, c'était un pas de côté d'écrire un livre sur les cocktails quand on écrit de la littérature par ailleurs. Et on se demande d'abord, d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée ?
Est-ce que je suis légitime ?
Est-ce que je suis légitime ?
Quand on écrit, on se pose toujours la question.
Je vais apporter quelque chose dans ce... Voilà. Comment ça va aussi se concilier avec moi, ce que je suis comme écrivain ? Et finalement, c'est devenu mon livre le plus personnel, je pense. Parce que c'est ça qui me correspond, c'est cette idée d'emprunter plusieurs univers, tous différents. C'est-à-dire que je parle de l'exotisme, mais je parle aussi, c'est pas forcément ce qui me fait rêver aujourd'hui. Si je vous parle aussi de Chicago dans les années 20, les années 30, c'est quelque chose qui me fascine, à titre historique, mais parce qu'il y a toute une imagerie. Je dis pas que je rêve d'être prise dans la guerre des gangs, mais enfin, il y avait toute cette imagerie qui est très différente de celle des cocktails exotiques. Il y en a 1000 et à chaque fois, quelqu'un comme moi qui a du mal à choisir, qui a du mal à se fixer, qui a du mal à répondre. Alors avant, je me disais, je suis inconstante. Non, je crois que j'aime les variantes, en fait. J'aime la surprise, j'aime que tout change tout le temps. Et avec un cocktail, c'est jamais deux fois la même chose. Même si vous mettez les mêmes ingrédients, vous le secouez une seconde de plus, vous aurez un tout petit peu plus de glace. Et puis surtout, c'est tout ce qu'il y a autour. Comment on le déguste, avec qui. Ça ne se fait pas en deux minutes. C'est ça qui m'intéresse. Donc il faut du temps. Ça ne se fait pas n'importe où. Il faut du matériel. Il faut tout un environnement. Et ça, c'est génial.
On parlait de l'univers qu'il y a derrière les cocktails. Mais en fait, dans votre livre aussi, ce que vous racontez, c'est la grande culture. La culture avec un grand C qu'il y a derrière les cocktails. Par exemple, que serait l'immense Ernest Hemingway sans le daiquiri ?
Alors, Cuba. Alors, c'est vrai que c'est ça qui continue de me fasciner, c'est que le cocktail, il y a beaucoup dans le livre de références au cinéma, à la musique, à la littérature. C'est impensable de faire autrement, même les séries. Enfin, je vois Mad Men, c'est quand même là qu'on a eu un revival des cocktails et des cocktails plus traditionnels que j'aime moi, comme le old fashioned, des choses plus effectivement old-fashioned, mais qui existe aussi. Pour venir à la radio ce matin, alors vos auditeurs ne savent peut-être pas que vos studios sont... Il faut prendre, pour moi, la rue Ernest Hemingway. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, cet homme est partout. C'est ça qui m'amusait aussi. C'est
le hasard ne frappe jamais par hasard, dit Jacques Prévert.
Alors oui, en même temps, c'est plus facile avec Hemingway qui est vraiment partout. Mais vous avez raison, c'est peut-être... Pourquoi je tombe sur Hemingway partout dans ma vie depuis que je suis toute petite? Je suis même allée en vacances au Gros du Roi. Alors, moi, j'ai grandi dans l'Hérault, donc le Gard, c'est un territoire interdit. Il se trouve que j'étais au Gros du Roi et tout d'un coup, on me dit « Ah, mais il y a ce bar où Ernest Hemingway a fait des cocktails. » Je me dis « C'est pas possible. Pourquoi même au fond du Gard, il faut que je tombe sur ce type ?» Et oui, alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup pour la popularité des cocktails. C'est pas le seul, mais c'est vrai que grâce à lui, les cocktails sont associés à la littérature. Mais il y a énormément de textes, notamment dans les années 30, où on ne peut pas envisager une journée sans un cocktail, en fait. Et le cinéma, c'est pareil. Le cinéma, les débuts d'Hollywood, c'est le cocktail.
C'est un chapitre qui s'appelle « Silence en bois ».
Oui.
J'adore.
Mais c'est associé. Et je rappelle, il y a un film des Frères Lumière, donc quand même 1895, « Le repas de bébé ». Donc on voit un bébé filmé pendant 40 secondes. Il y a une bouteille d'alcool au premier plan. Et je me dis, en fait, l'alcool est au cinéma depuis le départ. Et c'est quelque chose... Alors évidemment, à Hollywood, ça va devenir l'alcool qui fait rêver ou qui fait peur. Hein. Il y a aussi la prohibition. Et puis des choses beaucoup moins drôles plus récemment.
Alors, il y a un autre chapitre qui s'intitule « Casablanca versus cocktail ». Vous démontez ce dernier, le film ridicule de Tom Cruise.
C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que le meilleur.
Voilà, ben non. Mais vous encensez ce chef-d'œuvre.
Sing it, Sam.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time.
Chef-d'œuvre Casablanca. Quel cocktail on boit dans Casablanca?
Alors, c'est intéressant parce que Casablanca, c'est un film que moi j'ai vu très tard. Je voulais pas le voir parce que je voulais pas que Bogart soit avec Bergman et pas avec Bacall. Donc j'avais un blocage. C'est un film auquel je trouve qui a aussi des défauts et qui a, quand je l'ai vu, ce qui m'a sidéré, c'est cette impression de liberté. Alors évidemment, qui est liée au contexte de cette ville qui est en dehors Casablanca de pendant la guerre, qui est
Deuxième Guerre mondiale. Hein,
ouais. Voilà. Et ce personnage joué par Humphrey Bogart et qui... Alors, on y boit des French 75 ou French 75, on peut le dire aussi en français puisque c'était, il paraît-il, une référence au calibre des canons français.
Qui est les canons de 75
Exactement, le champagne. Il y a plusieurs cocktails dans Casablanca, là, comme ça, vous me...
Tout non, non, mais celui-là, le French 75, c'est très bien.
Et moi, j'aime énormément les champagnes au cocktail.
Les cocktails au champagne.
Le champagne, j'aime aussi le champagne, tout court. Alors, parfois on me dit « Ah, c'est bien, on a mauvais champagne, on va faire un champagne cocktail ». Non, enfin, malheureusement, les cocktails, y a très peu de cocktails qui s'accommodent de mauvais alcools, je suis désolée.
Ouais, mais c'est...
mais un bon champagne sur un sucre avec un peu d'angostura et un peu de cognac, et on le voit, les petites bulles qui remontent, et c'est magnifique. Et c'est ça que j'aime dans les cocktails, c'est que c'est à la fois l'histoire, on va penser à Casablanca, à plein de films, notamment Le Grand Sommeil, qui fait une place au champagne cocktail, plein d'autres films. On pense à la littérature et on pense aussi à tout ce qui est sensoriel, c'est-à-dire que les couleurs, les goûts, le bruit des petites bulles, le bruit des glaçons dans le shaker. Il y a des gens qui ont enregistré des disques entiers de musique avec des percussions faites par des shakers. Voilà, c'est sans fin, en fait.
En fait, il y a une histoire derrière chaque cocktail. Alors, il y en a tellement, mais il y en a une que j'ai beaucoup aimée, que je ne connaissais pas, c'est la création du Moscow Mule. C'est, C'est le hasard qui
voilà, alors,
raconté,
après,
parce que c'est génial.
Ce qui est compliqué
quoi.
Avec le cocktail, c'est qu'il y a tellement de légendes et que souvent, les informations sont... Évidemment, il y a maintenant une Oxford, il y a un Oxford Companion aux alcools, enfin, qui s'occupe des alcools et des cocktails, mais il y a 800 pages quand même sur les alcools, donc il y a des choses qui sont des sources.
Vérifiées, voilà. Oui.
Mais il y a aussi beaucoup de fantaisie, et notamment sur Internet, où les fabricants, enfin les marchands...
inventent des histoires.
Les marques inventent... ça existe aujourd'hui, hein, on invente l'histoire d'une marque. Alors là, je crois que c'est quand même vrai. Donc, il y a, c'est dans les années 40, à Los Angeles, je crois, un Américain qui achète Smirnoff, petite compagnie de vodka. Personne ne boit de la vodka aux États-Unis à ce moment-là. Quelqu'un d'autre qui fabrique de la ginger beer que personne n'achète non plus, hein, de la bière, enfin, de
c'est un soda.
De soda au gingembre. Ils décident de se mettre ensemble pour essayer de vendre ce concept de vodka avec du gingembre. Et la légende dit qu'ils auraient aussi rencontré un fabricant de mugs en cuivre, parce qu'avec la Moscow Mule, il est servi dans des mugs en cuivre.
Uniquement dans les mugs en cuivre.
Voilà, qui sont maintenant d'ailleurs dans certains bars, il faut laisser sa pièce d'identité parce qu'il y a une
caution,
parce qu'ils sont volés, le cuivre coûte cher. Donc, il y a toute cette légende de, voilà, de sérendipité, de quelque chose qui se passe comme ça. Il y a plein de cocktails qui sont nés, alors moi je rappelle toujours, parce que j'ai grandi dans le sud, c'est cette anecdote du Roquefort qu'un berger aurait inventé en laissant pourrir son fromage, en gros, enfin moisir plutôt. J'adore le Roquefort, mais c'est un peu ça, les cocktails. C'est-à-dire que souvent, c'est on n'avait plus de citron, donc on a mis du Cointreau, on n'avait plus... voilà.
Et puis ça fait...
Et ça marche. Et vous verrez, quand vous avez déjà bu 2-3 cocktails, vous vous sentez une âme tout à fait...
créative.
Libre, créative. Et ça va très vite. On peut inventer des recettes très facilement.
Alors, vous parlez de votre goût pour les atours sulfureux des cocktails, parce que la prohibition, voilà, c'est très associé à ça.
Oui, et à la séduction au sens large.
Interdiction d'alcool pendant quelques années.
Interdiction d'alcool qui fait que tout le monde se met à boire, comme il y a plus de bars à New York pendant la Prohibition, donc dans les années 20-30, que pendant toute l'histoire de New York. On y vend plus de shakers que dans le monde entier. Enfin, ça devient... en fait, tout le monde se met à faire des cocktails qui permettent de dissimuler les mauvais alcools. C'est-à-dire qu'avec des fruits, avec des sodas, avec des choses visuellement...
Parce que
même,
les alcools sont mauvais, parce que...
Voilà, on les fabrique dans des baignoires,
on
distille avec ce qu'on a et là où on peut. Tout à coup, on associe, et puis on ne va pas juste boire des bières dans des bars, il y a tout d'un coup, on reçoit chez soi, donc il y a la naissance de la cocktail party, de toute cette esthétique, la robe cocktail, tout ce qui naît à ce moment-là, et qui fait que, oui, c'est sulfureux, ça devient aussi, pour moi, j'ai dit à un endroit, c'est peut-être la version érotique du verre de vin, le cocktail, mais parce qu'il y a tout ce temps de préparation, il y a le matériel, il y a un soin porté au détail, qui fait qu'il y a quelque chose de très soigné qui peut-être aussi l'associe dans ma tête à quelque chose de sulfureux.
Bon, passons aux choses sérieuses. Là, parce que moi,
sérieux. Hein.
Non, mais là, parce que là, on va être sur les puristes. C'est-à-dire que moi, je suis chiant sur plein de trucs, mais sur la bouffe et les cocktails...
Et là,
moi,
c'est un peu ça le problème.
Ah oui, voilà. Là, moi, je suis un peu radical quand le cocktail qu'on me sert n'est pas comme je l'aime.
Ce qui arrive souvent, malheureusement.
Oui, malheureusement, voilà. Enfin, mais il y a des erreurs qu'on n'a pas le droit de faire, hein, quand même, hein, je dis.
Alors, est-ce que j'ai fait des bêtises?
Ah non, pas vous, mais je dis la personne qui vous fait le cocktail derrière le bar.
Oui,
c'est un vrai métier, parce que les gens pensent qu'on peut inventer comme ça. Enfin,
peut. Il y a des diplômes officiels et des formations.
Il faut, voilà.
Dispensés par l'hôtel Savoy.
Bien sûr, c'est un véritable métier. Vraiment,
Mais moi, je suis amatrice, donc je me permets pas forcément. Je peux parfois donner un conseil au point qu'on finisse par me dire, effectivement, est-ce que vous voulez le faire vous-même? Donc peut-être que
oui, vous êtes un peu dans mon genre. Oui, voilà. Non, parce que vous écrivez qu'un bon cocktail ne doit se composer que de 3 ingrédients, mais bien entendu.
Oui, alors ça, c'est un peu.
Mais oui.
J'ai essayé d'être un peu plus sûr de moi et d'être comme vous
d'être
sûr. À partir de 3, je trouve que ça se dilue, on perd l'intérêt.
Et plus c'est simple, plus c'est dur à réaliser.
Exactement. Et plus il faut de bons alcools, c'est vrai.
Et voilà.
Vous n'avez que des choses horribles, il vaut mieux mettre beaucoup de jus d'orange à la fin. Mais si c'est du mauvais jus d'orange, voilà. Ça... et donc Robert Simonson, qui est un critique et vraiment spécialiste de cocktails, a écrit un livre qui s'appelle « Le cocktail à 3 ingrédients ». Et pour moi, il a raison. Enfin, c'est ça qui doit... Après, on peut tricher un petit peu. Hein. Est-ce que le zeste de citron est un ingrédient ou pas? Dans le martini, sinon,
est-ce que l'angostura est...
Oui.
Est un ingrédient?
Ah oui, pour moi, oui. Parce que
c'est même si c'est qu'un tout petit peu.
Qui a beaucoup de goût, même s'il y a très peu. Et puis qui a été inventé quand même pour soigner des pauvres soldats sur le front, au fond du Venezuela, à l'époque sous l'armée de Simon Bolivar. Et le docteur qui l'a inventé, c'était pour soigner les maux de ventre et la dépression. Je trouve ça très beau que... Et dans les années 20, on conseillait encore d'utiliser l'angostura pour la dépression. Donc le cocktail est en plus un antidépresseur.
Alors dans la vie, c'est homme ou femme, et Manhattan ou Martini. Pour ce qui est des cocktails, vous êtes non-binaire comme moi. Donc, on peut aimer le Manhattan et le Martini, en fait. Le dry Martini, c'est comme ça que... Voilà,
oui,
le Martini,
je dis... Voilà. Oui.
on doit l'appeler comme ça. Enfin, c'est, le vrai nom, c'est le martini, mais on appelle ça le dry martini.
Oui, voilà. Parce que sinon, on peut vous servir un martini, c'est pour un vermouth blanc.
Exactement, exactement. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'aime ces deux. Ce sont mes deux cocktails préférés.
Mais oui, mais je crois que... Et en plus, ça correspond... Moi, je... Alors, peut-être non binaire, mais en tout cas, je peux être polarisée.
C'est histoire de faire une petite connerie. Hein.
Non, non, mais c'est intéressant. C'est... Parce qu'on peut vous dire, ah non, les cocktails, c'est un truc de fille. C'est fruité.
Pardon.
C'est... Voilà, on en est encore là, parfois, dans
Mon
les bars.
Dieu.
Et heureusement, maintenant, dans les bars, on a autant de femmes barmaids qui servent des cocktails que d'hommes.
Enfin,
en tout cas, c'est en train de vraiment changer. Ça a changé très vite depuis une quinzaine d'années. Un cocktail... Comme le Manhattan, c'est un cocktail qui est assez sucré, qui a une, il y a du vermouth rouge, il y a du bourbon, du rye ou votre.
Alors justement, me reproche, vous ne citez pas le Canadian Club, voilà, c'est parce que moi j'aime le Manhattan avec.
Voilà,
ce
donc
whisky
le Manhattan se fait avec un whisky
canadien,
nord-américain, voilà. Ça c'est l'essentiel. Donc après il y a.
Oui,
des
oui, pas de l'écossais, c'est pas possible de faire Manhattan.
Alors ça devient un Rob Roy.
Ah oui, donc c'est pas Manhattan.
Qui n'est pas un Manhattan, mais voilà. Qui peut servir pour les soirées feu de cheminée. En revanche, c'est un cocktail qui peut être un peu plus sucré qu'un martini qui est vraiment sec. Et je dis en plaisantant que Marilyn, parce qu'il y a des films de Billy Wilder dans lesquels on boit énormément de cocktails. Donc certains l'aiment chaud, première apparition du Manhattan à l'écran, je pense, qu'elle concocte dans une bouillotte hein, dans le wagon du train. Et je dis, il lui faudra 5 ans pour passer au martini. Alors que moi, il m'a fallu quelques minutes voilà, pour commander dans une même soirée. Parce qu'un Manhattan, un martini, c'est pas la même... voilà. Martini sera plus sec, il va avoir un effet... C'est quand même que de l'alcool.
Ça s'attaque. Il
faut le dire.
Connaissez-vous un cocktail qui porte le doux nom de Frédéric?
Ah, c'est une colle. Ah, c'est tout à fait possible qu'il y en ait un, effectivement, puisqu'il y a tout.
Oui. Alors,
dites-moi.
Il a été créé en mon nom. Donc comme c'est mon programme, hein, je le raconte,
oui,
je parle de moi.
Ou que vous, hein. Je ne suis pas sûr qu'on en parle beaucoup ailleurs, donc il faut le...
Ah mais si, il y a même un livre, dans un livre, on parle du cocktail Frédéric, un soir de tristesse quand je vivais à Madrid. Je vais au Del Diego.
Triste à Madrid en plus.
Ouais, oui, ça arrivait. Del Diego, qui est le grand bar de cocktail de Madrid. Fernando, le patron qui est décédé depuis, me dit « qu'est-ce que tu veux ?» Je lui dis « prepárame algo fuerte y amargo con la vida misma. Prépare-moi quelque chose de fort et d'amer comme la vie même. » Et là, il se met à créer un cocktail. Dans un verre de martini, je goûte, et je dis, mais c'est merveilleux, comment ça s'appelle? Il me dit, c'est un Frédéric.
Il y a quoi dedans, alors?
Alors, oui, la base, c'est vodka, c'est comme le dry martini, c'est vodka ou gin, moi je préfère gin, vermouth blanc, cinar, liqueur d'artichaut, angostura, et un petit zeste d'orange amère.
Parce qu'on n'a pas parlé des amers, mais c'est une grande composante des cocktails. C'est pour ça que moi, quand on me dit c'est sucré, c'est sirupeux, non. Enfin, il y a tous les cocktails à base d'amers, de vermouth, de toutes les variantes d'amers italiens.
Ce sont les meilleurs.
Et le chinard, c'est quand même de l'artichaut. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais on peut faire son spritz avec, par exemple. Parce que moi, le spritz,
c'est très, très amer.
J'adore ça. Et donc, je dis, je suis obligée d'en parler, même si je déteste ça. Je déteste ça parce qu'on le fait à l'apérol. L'apérol, c'est un nom de carburant. Enfin, c'est pas en vie, c'est orange vif. Alors, au Select, à Venise, c'est déjà un peu mieux. Et puis, en plus, c'est une boisson de soldats. Donc, voilà, après, est-ce qu'on fait confiance à des soldats pour avoir inventé les meilleurs cocktails?
Mais vous faites confiance à Sharon Stone? Vous faites confiance à Sharon Stone parce qu'elle a goûté le Frédéric.
Ça dépend pourquoi. Oui, voilà. Pour un cocktail, oui.
Voilà, entier. Elle l'a goûté.
Mais voilà, les amers,
mais
ce
qu'elle a aimé,
spritz avec du chinard, avec de l'artichaut. Et si ça plaît à Sharon Stone.
Ah, on remplace l'apérol avec la liqueur
d'artichaut.
C'est dur à trouver, parce que j'ai parfois demandé à les gens.
Ça va venir. Bah, si le Frédéric continue
Vous allez au Del Diego, Calle Reina à Madrid.
Vous avez vu, les cocktails, c'est aussi un effet de mode. Donc il faut lancer le.
Oui, mais après, oui.
Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, mais je suis obligée d'admettre qu'on ne peut pas, on va devoir le dire, Fred. Il y a des gens qui boivent des mojitos.
Autour de cette table.
Et oui.
Alors, si Denis Bonnec est une animatrice de télé,
moi, je n'aime pas l'alcool.
Elle écrit un roman merveilleux, mais elle boit des mojitos, j'étais très déçu.
Je n'aime que le rhum. Alors, initiez-moi.
Chose entre vous et moi aussi, Agnès, nous n'aimons pas trop le rhum. Voilà.
Si, moi, j'aime beaucoup le très bon rhum, mais tout seul.
Mais oui, mais pas dans les cocktails.
Je trouve que c'est dommage.
En tout cas, j'ai envie de déguster le livre d'Agnès, donc franchement, c'est déjà formidable.
Et bien justement, merci beaucoup Agnès Mathieu Daudet. Alors, la loi Evin nous demande de rappeler que les cocktails doivent se boire avec modération.
De toute façon, sinon, vous n'y survivrez
pas. Mais votre livre Petit éloge des cocktails, publié aux éditions Les Pérégrines, lui, se lit sans aucune modération. Pour ma part, je vous recommande le deuxième tome d'Anthologie de la répartie de Julien Coya aux éditions du Cherche Midi, qui est un florilège de répliques de toutes sortes qui ont en commun d'être brillantes. Alors, pour le plaisir, lors d'une soirée officielle, Winston Churchill croise David Lloyd George, qui lui demande sèchement, sans même le saluer, où sont les toilettes? Et là, Winston Churchill, magnifique, qui aimait beaucoup les cocktails, il picolait beaucoup, répond « Au bout du corridor à droite, sur une porte, vous verrez un panneau « Gentlemen » et vous pouvez entrer quand même.
Oh, » c'est magnifique.
C'est déjà la fin du 20e épisode de votre podcast des Livres RMC. Merci beaucoup, Sidonie Bonnec.
Merci
beaucoup,
c'est
un bonheur
Fred.
De vous avoir aujourd'hui.
Un régal.
Je rappelle le titre de votre roman « La fille au père » qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr, sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux sociaux, à laisser des notes et des commentaires et surtout, abonnez-vous. Et l'on se quitte avec un peu, comme toujours, de tango d'Astor Piazzolla et allez, quelques vers de Jacques Prévert. Quel jour sommes-nous ? Nous sommes tous les jours, mon ami. Nous sommes toute la vie, mon amour. Nous nous aimons et nous vivons. Nous vivons et nous nous aimons. Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie. Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour. Et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour.
Des livres RMC.